Bonsoir. Trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, clôture hier jeudi à Kinshasa de la révision des fichiers électoraux. Ensuite, certaines entreprises, tant privées que publiques, dénoncent l'existence d'interprises parallèles au sein de la DGRAD. De son côté, la DGRAD ne reconnaît pas les accusations formulées contre elle par ces entreprises. Et enfin, difficulté dans la livraison du passeport biométrique en République démocratique du Congo. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs, un journal paraissant à Kinshasa, et distribué à l'est du pays et dans le pays limitrophe de la RDC. Il y a aussi Jean-Luc Niasse-Kama, il est chef de la section actualité au service des informations à la télévision Antenne A, une télévision émettant depuis Kinshasa, et aussi Jacques Kaboulo, qui est directeur des informations à la radio-télévision Lubumbashi-Jua, une télévision émettant depuis Lubumbashi au Katanga. Clôture hier à Kinshasa de la prolongation des révisions du fichier électoral, existence d'un circuit parallèle à la DGRAD dénoncée par certaines entreprises, et enfin les difficultés dans la livraison des passeports. Ce sujet de débat dans cette tribune ont figuré à la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Samuel Kachak nous fait le point dans cette revue de presse que je vous invite à suivre.
Bonsoir. Après la clôture hier jeudi à Kinshasa de la prolongation des révisions du fichier électoral, un nouveau souci de 15 jours accordé aux Kinois note le palmarès. Citant le troisième vice-président de la CI, Crispin Kankondé, le confrère précise que ce délai permettra aux milliers de Kinois qui n'ont pas pu obtenir leur carte d'électeur dans le délai initial de s'en procurer. Cette nouvelle prolongation de la CI prévient de son côté l'Observateur constitue une dernière alternative. Pendant ce temps, l'avenir parle de détournement en cascade dans les régies financières. Le journal note que cette situation inquiète le peuple congolais qui appelle le chef de l'État à frapper fort dans ce secteur dans le cadre de la tolérance zéro. Malgré les démentis, les chefs d'entreprise persistent et signent. Il y a bien mafia à la DGRAD, note le potentiel. Notre confrère rapporte que les chefs d'entreprise apportent des preuves dénonçant l'existence de circuits parallèles au sein des régies financières. Pour finir cette revue de presse, nous parlons de la livraison des passeports biométriques, note le palmarès, qui annonce une guerre froide entre deux ministères, celui des Affaires étrangères et celui de la justice. En croit ce journal, le ministère des Affaires étrangères a stoppé la livraison des passeports biométriques. Il l'a conditionné par la présentation d'un certificat de nationalité qui doit être délivré par le ministère de la justice. Après avoir trouvé intérêt d'entente, les deux ministères ont levé le blocus sur la livraison du passeport.
Merci Samuel Kachaki pour cette revue de presse. Un petit commentaire par rapport à la revue que nous venons d'écouter. Jean-Louis Niasse-Kama, vous êtes chef de la section actualité au service des informations à la télévision Antenne A, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et comment vous appréciez le traitement que la presse a fait de l'actualité cette semaine?
Oui, la première chose, c'est d'abord qu'il faut qu'on ait toutes les précisions sur cette nouvelle prolongation de 15 jours. Parce que nous, on a eu une information contraire, disant que il n'y a pas de prolongation, mais il y a seulement, on met fin à ces opérations en s'occupant des personnes qui étaient dans le processus de révision du fichier électoral. Et les présidents des bureaux pour des opérations de révision du fichier électoraux ont remis des jetons à ces personnes qui vont venir et pouvoir traiter leurs problèmes pour obtenir leur carte d'électeur.
Voilà, il s'agit de ça parce que selon le rapporteur général de la CI, M. Dieudonné Mérimont, c'est hier jeudi que les opérations des révisions du fichier électoral ont été clôturées, mais on a remis des jetons aux personnes qui n'avaient pas encore obtenu leur carte d'électeur. Et de 15 jours, c'est pour permettre à ces personnes qui détiennent les jetons afin d'obtenir leur carte d'électeur. Donc ces 15 jours ne concernent pas tout le monde.
Voilà. Parce que c'est la prison qui est de taille. Sinon, on va arriver encore à une situation où il y a encore d'autres infiltrés et tout cela. Mais à ce sujet aussi, si on revient dans la question du fichier électoral, il est quand même intéressant que l'on puisse dans les cas de figure ici, faciliter l'enrôlement, la révision, l'opération de révision judiciaire électorale à la population.
Oui, je crois qu'on va y revenir parce que là, c'est encore un commentaire par rapport à la révision des presse. Oui. Jacques Kaboulo, vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Lubumbashi-Doua. C'est une télévision émettant depuis Lubumbashi au Katanga. Y a-t-il selon vous une information sur laquelle votre télévision a insisté et qui n'a pas été mentionnée dans la presse de cette semaine?
Alors, ben, tout à fait, je salue d'abord tous les auditeurs de Radio Capi. Moi, je viens de Lubumbashi, comme vous le savez. C'est au fond le temps ce que nous avons abordé la question relative au passeport biométrique. C'est un grand problème qui est posé à Lubumbashi, parce que lorsque vous vous retrouvez au niveau de l'Assemblée provinciale du Katanga, au niveau de son siège exactement, c'est plein de gens, c'est plein de fils de gens qui attendent parce que la procédure n'est pas bien maîtrisée, c'est tout le monde qui se met dans la danse, il y a des commissionnaires, il y a le pouvoir public, fatalement tout le monde au point que finalement ça provoque une sorte de grand grêle. Voilà, donc pour ce qui est de la DGRAT, je suis sûr que l'actualité a été aussi abordée chez nous par rapport à cette question de Français sont gros mining en difficulté avec la DGEL, mais entre les deux, c'est encore une fois la DGRAT. Je crois qu'on aura le temps de faire des détails par rapport à tout ça.
Merci Benoît Kamberé, vous êtes rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs, c'est un journal paraissant en Kinshasa et distribué à l'est du pays et dans le pays limitrophe de la RDC. Et comment votre journal Écho des Grands Lacs a analysé les opérations de révision des fichiers électoraux? Juste un petit commentaire avant qu'on entre dans le détail.
Bah, écoutez, c'est que ça commence plutôt avec des difficultés à Kinshasa. On s'imagine que ça va être à l'intérieur. D'autant plus que, et nous allons, je pense, y revenir, on attendait 2 millions de nouveaux inscrits à Kinshasa jusqu'à hier. Donc, on a eu 1 million 200. C'est-à-dire que ça pose problème quelque part. On va y revenir.
Ok. Merci. Nous allons passer à notre premier thème de la tribune de ce soir. Clôture hier, jeudi à Kinshasa, de la révision du fichier électoral. On notait encore un engouement important des Kinois devant les bureaux en dépit de la prolongation de ces opérations. La CI affirme ne plus être en mesure de prolonger une deuxième fois ces opérations. Mais selon le rapporteur général de cet organe, les dispositions pratiques qui sont prises pour servir les citoyens au-delà du 20 août 2009. Guédonné Mérimo répondait hier jeudi au micro de Jody Kachama dans l'émission Okapi Service.
Aujourd'hui 20 août 2009, la commission électorale indépendante clôture l'opération de révision du fichier électoral dans la ville de Kinshasa. Mais elle a pris des mesures d'encadrement pour bien accueillir. C'est pour cela que depuis le mardi 18 août 2009, nous avons commencé à partir de 15h à distribuer les jetons à tous les requérants qui se présentent au centre d'inscription. Et cela va aller jusqu'aujourd'hui à 17h. Et il n'y a que les personnes détentrices des jetons distribués à partir du 18 jusqu'aujourd'hui qui vont continuer donc à obtenir leur carte au-delà du 20 août 2009. Nous allons bientôt rendre public le calendrier pour la suite de l'opération et l'opinion sera informée de la prochaine province.
Oui, Benoît Kamberé, selon le rapporteur général de la CI, M. Dieudonné Mérimo, jusqu'au mercredi 18 août dernier, la CI a enregistré environ 1 300 000 personnes sur 2 millions attendus. C'est 65% par rapport aux prévisions. N'est-ce pas un exploit accompli par la commission électorale indépendante?
Oui, un exploit. Bon, quand on dit 65, c'est vrai, c'est une réussite, mais 65%, avec tous les engouements, j'ai personnellement fait le tour de quelques bureaux de vote à Kinshasa hier, plutôt des bureaux d'inscription. Avoir le monde qu'il y a encore, on peut se poser la question. Et les 2 millions d'attendus, c'était juste une fourchette. On pouvait aller au-delà, tout comme on peut, mais avoir le nombre des gens qui attendent encore, c'est qu'on peut même aller au-delà. Alors, si c'est vraiment pour la population qu'on le fait, moi je me demande pourquoi on doit arrêter. Et tout à l'heure, monsieur le rapporteur de la commission a dit, on a distribué les jetons. Moi, je voudrais savoir combien de jetons ont été distribués et pourquoi on a arrêté maintenant. Est-ce un problème d'argent? Est-ce un problème d'essoufflement? Quel est le problème? Parce que tout le monde se rappelle que au début de cette opération, il y a eu une sorte de flottement dû au fait qu'il n'y avait pas assez de sensibilisation.
les populations kinoises ne savaient pas où aller, il n'y avait pas d'inscription, il n'y avait pas cette pub au sujet de cet enrôlement. Après, certes, la mayonnaise a pris, comme on dit, mais on a constaté qu'il y avait toujours de l'engouement, et si c'est vraiment pour la population qu'on le fait, si c'est vraiment un devoir, c'est un droit pour chaque citoyen d'avoir sa carte d'électeur et finalement d'élire, je crois qu'on devrait prendre le temps qu'il faut. C'est vrai, on ne peut pas dire. Il y a des pays où les bureaux d'enregistrement sont ouverts de façon permanente. On devrait peut-être arriver à ça dans notre pays. Mais si on doit vraiment arrêter à Kinshasa, il serait de bon aloi, à mon sens, si vraiment on écoute la population, qu'on ouvre quelques bureaux après la clôture. On ne doit pas être rigide avec la demande qu'on voit, avec toutes les plaintes qu'on a à Kinshasa. Et il a suffi de voir le micro-baladeur des télévisions de Kinshasa qui sont passés hier quand on a clôturé. Eh bien, c'est n'y a que des plaintes avec toutes les irrégularités qu'on est en train de constater. Il faut vraiment que la CI mette de l'eau dans son vin parce qu'on se demande pourquoi elle doit être rigide.
Oui, Jean-Louis Nyasukwama, il y a engouement, comme vient de dire Benoît Cambéré. Mais de l'autre côté, la CEI évoque les problèmes de financement. Elle dit qu'elle n'a plus assez de moyens pour une nouvelle prolongation ici dans la ville de Kinshasa. Elle n'a pas raison lorsqu'elle évoque le problème de financement.
Oui, elle évoque le problème de financement, d'accord. Mais le problème aussi, c'est que les choses évoluent. On ne peut plus se retrouver en 2004, 2005, 2006, où c'est la communauté internationale qui a tout financé. Lui, Michel, lors de ses derniers voyages ici en tant que commissaire européen de développement, a dit l'Union européenne est plus prête à financer comme elle a financé avant, en raison presque de plus de 150 à presque 200 millions d'euros.
Est-ce que l'Union européenne a effectivement contribué ?
L'Union européenne a contribué cette fois-ci à raison à peu près, comme lui-même l'avait dit, ce sont ses paroles, de 16 millions d'euros, mais plus comme avant, où ce qu'elle avait donné, ouvert pratiquement les vannes. Et certains des autres pays ont contribué. Cela revenait notamment aux autorités congolaises, vu l'expérience du passé, c'est-à-dire que l'expérience serait que l'on puisse connaître tous les postes qui ont demandé beaucoup d'argent inutilement, donc faire des économies d'un côté, récupérer de l'argent de l'autre, même dans l'organisation, pour l'enrôlement, tenir compte de toute la masse de potentiels électeurs qui ne sont pas fait enrôler parce qu'ils avaient 16 ans au moment de l'enrôlement, qu'ils avaient 16 ans au moment des élections, etc. Donc, il y a tout cela, et tous ceux qui n'avaient pas ça avant, du mot d'ordre de certains partis qui avaient boycotté. Donc, et parce que le constat sur le terrain, quand on a l'impression qu'on a mis moins de moyens qu'on a mis les fois passées. On a l'impression qu'on a mis moins de centres pour ces opérations qu'avant. Donc c'est au gouvernement petit à petit, parce que la démocratie qui doit naître, c'est les Congolais qui la créent, c'est les Congolais qui vont élire, c'est les Congolais qui vont élire les animateurs de leurs institutions, de leurs municipalités dans quelques mois. Donc c'est à nous-mêmes d'abord de trouver les sous.
Apparemment, Benoît Cambéré a un mot à ajouter.
Oui. Oui, justement, à propos de moyens. Hier, par exemple, il y a deux diplomates européens qui sont allés voir le ministre du Budget pour s'enquérir de la contribution de la République démocratique du Congo. Et ce que Jean-Louis a dit, c'est vrai. Ces élections, ce sont nos élections. On a l'impression que, même si cela a été prévu au budget, ce n'est pas une priorité. C'est comme si on ne veut pas qu'on en arrive à ça.
Qui a cette impression-là ?
Ben, non, toute l'opinion publique, parce que les deux ambassadeurs qui sont partis, chacun avait dans sa cagnotte, l'ambassadeur de Suède a dit que son pays pouvait donner 5 millions. Et puis l'ambassadeur des États de la Grande-Bretagne a parlé de 25 millions. Et on attend de la République démocratique du Congo 10 millions. Qui jusqu'à présent ne sont pas encore libérés. Il n'y a que, et ça c'est la déclaration du ministre du Budget, seulement 2 millions qui vont, semble-t-il, être libérés. De deux choses, ou on veut qu'il y ait des élections, ou on n'en veut pas. Ce ne sont pas des élections qu'on fait pour les beaux yeux des gens de l'extérieur, c'est un processus pour notre pays et qui devait préoccuper au plus haut chef d'abord nos dirigeants plutôt que les gens qui vont nous aider à l'extérieur.
Je vais revenir à vous, je donne d'abord la parole à Jacques Caboulot. Jacques Caboulot, en dépit de cette bonne volonté de la CEI, mais en fait, la CEI, c'est un organe technique qui dépend du gouvernement. Lorsqu'elle n'a pas assez de moyens pour accomplir sa mission, mais qu'est-ce qu'elle peut faire ?
Bon, ce qu'elle peut faire, c'est se résigner par rapport à la situation du terrain. Moi, je constate, quand vous dites qu'il y a engouement à Kinshasa, l'engouement, il faut la noter, il faut plutôt le noter après la prolongation, parce que dans la date régulière, dans la date normale, il n'y a jamais eu engouement, c'est ainsi que la CU était obligée de prolonger un petit peu. Donc, vous vous rendez compte qu'on n'est plus dans le contexte de fin de la guerre, où on a annoncé les élections et que la communauté internationale a financé les élections, histoire de, d'amener une troisième république enfin, au Congo. Il y a aussi cet engouement à l'époque par rapport justement à cette fin de guerre. C'était le souci pour tous les Congolais d'avoir une carte pour s'identifier comme Congolais, donc comme le contraire de l'ennemi du Congo. Vous remarquez donc le souci était de participer par rapport à ces deux opérations. Mais prolongation dans la capitale, ça signifie que je note, moi, les Chinois sont frustrés par rapport aux attentes de nos élus. Il y a eu trop de promesses par rapport à ces élections. Il fallait avoir sa carte, c'était le changement qui était prévu. Mais deux ans après, on se rend compte que ça ne vaut pas encore la peine de se faire enrôler pour des élections qui n'ont pas de, enfin, un avenir tel qu'on l'attendait. En plus de ça, vous évoquez la question des moyens. Est-ce que la République démocratique du Congo, depuis que la troisième république, après deux ans de mandat par rapport aux élus, est-ce qu'elle a présenté un budget dans lequel la question des élections, le financement des élections avait été abordé? Je m'en souviens pas trop bien. Il y a eu plutôt des propositions concrètes, mais rien n'a jamais été fait. Mais la communauté internationale se dit, on va pas continuer à financer un pays souverain. Il faut que nos dirigeants se montrent quelque peu, ils manifestent une sorte de bonne volonté par rapport à l'organisation de ces élections. C'est pourquoi j'ai rejoint un confrère qui dit, il me semble, moi aussi, qu'il n'y a pas de volonté que ces élections soient organisées. Mais on donne des jetons. On donne des jetons, ça signifie que les agents de la CEI, qui ont signé, je suppose, un contrat à durée déterminée, vont prolonger leur mandat. Mais qui va être payé parce qu'il y a un budget qui a été financé, un budget qui a été voté par rapport à une durée déterminée. Mais au-delà de tout ça, on risque de résoudre des difficultés en termes de grogne, telle n'a pas été payée parce qu'il a pressé. C'est donc une complication au niveau de la République, et je me dis que lorsque ça va commencer dans les provinces, ça aura été pareil, et que finalement, il y a d'autres regardés de voix.
Jean-Louis,
en concret, il fallait au moins entre 100 à 120 millions pour organiser les élections municipales.
100 à 120 millions d'euros, des dollars américains.
De dollars américains. Ah. Donc 100 millions, ce que les premières données qu'on avait sur le au point du niveau des autorités congolaises, un diplomate avait avancé le chiffre de 120 millions. Donc, alors, déjà, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. C'est que dès le début de la législature et du mandat présidentiel, il était tout à fait normal de prévoir une caisse pour commencer à y mettre des crédits budgétaires pour préparer les élections. Les élections en 2011 et les élections municipales. C'est important. Elles sont très importantes, ces élections municipales. Parce que, en ne faisant qu'en 2006, les élections présidentielles, législatives et provinciales, on a opéré une cassure entre la base, la population, le souverain primaire, le patron en soi, c'est lui le grand patron, et les autorités. Parce que on a l'impression que toute la politique se joue au niveau provincial à haut niveau, au niveau législatif et au niveau présidentiel. Mais au niveau de la base, au niveau des municipalités, des quartiers, il y a une déconnexion. Parce que les personnes qui sont là ne sont pas des élus. Et pourtant, au niveau des municipalités, on forme une pépinière de politiques, de politiciens qui connaissent bien la population et qui peuvent après monter de différents échelons, passer à député provincial et gouverneur et tout ça, mais avec une bonne connaissance de la base. Et ça, c'est important.
Benoît Cambéré, en 2005, en dépit du boycott et de certains partis politiques d'opposition, 2 900 000 personnes avaient été enregistrées en 21 jours dans la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, alors que toutes les conditions semblent réunies, avec notamment l'adhésion de tout le parti à ce processus, c'est l'engouement qui était constaté. En 75 jours, seulement 1 300 000 personnes ont été enregistrées. Pourquoi ces paradoxes?
Jean, lui, il a dit, il y avait combien de bureaux à l'époque? C'est presque chaque quartier qui avait un bureau d'enregistrement. Maintenant, je prends le cas de ma commune, la commune de Bandalungwa. Il n'y a que 4 bureaux. Ce n'était pas ça qu'il y avait à Bandalungwa pendant la première opération.
4 bureaux seulement pour la commune de Bandalungwa. C'est impensable. Alors que, à l'époque, j'étais en Galima, dans chaque coin, il y avait un bureau malgré le boycott. Et maintenant, on devait prévoir plus de bureaux et amener plus de moyens. Mais ce n'est pas ça qu'on a vu. Il n'y a que 4 bureaux pour la commune de Bandalungwa. Ce n'est pas normal. À Bandalungwa, vous pouvez, je n'ai pas les chiffres en tête en ce moment, il y avait une trentaine, une cinquantaine de bureaux de vote et qui étaient avant des bureaux d'enregistrement. C'est tout à fait normal qu'on ait ce chiffre-là. Et sans compter que à Kinshasa, le déménagement, c'est légion, il y a des gens qui ne s'étaient pas fait enrôler, il y a les déplacés de guerre qui ont rejoint Kinshasa, on devrait penser à tout ça. Hein? Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se fait.
Et oui, Jean-Louis, merci. Comment
pour les jeunes, et ça, on a même le coordinateur l'avait relevé, les jeunes élèves, c'est que les vacances, notamment, ont beaucoup joué. C'est qu'on a prolongé, on les a pratiquement donné l'occasion d'aller se faire enrôler. Parce que la plupart étaient dans leur tête, dans leurs examens d'État, ou dans leurs examens, etc. Et c'était une occasion. Et ça aussi, c'est tout un vivier électoral.
Les nouveaux majeurs.
Hein, les nouveaux majeurs ou les futurs majeurs. Et ça, c'est important. Et ce qu'on dit, notamment, tout le monde s'est plaint de la diminution des nombres de centres. Or, dans l'optique, on en parlera aussi pour d'autres sujets, il y a l'optique, même les opérations de revient fichier électoral relèvent du service public. Et s'ils relèvent du service public, il revient à aux communes,
aux quartiers,
à faciliter l'accès à ces bureaux, en pensant que si nous sommes un pays qui veut se développer, les gens ne doivent pas perdre leur temps 2, 3, 4, 5 jours pour se faire enrôler, pour qu'ils doivent aller travailler, s'occuper de leurs affaires, ainsi de suite. La vie est déjà difficile.
Jacques Kaboulo, comment entrevoyez-vous l'organisation des élections locales? Hier, lorsqu'on s'entretenait avec le rapporteur général de la CI, M. Guédéné Mérimo, il a dit que ces élections étaient conditionnées par un certain nombre de préalables. C'est notamment les finances pour la suite des opérations de révision plutôt des fichiers électoraux, les lois sur les entités territoriales déconcentrées, les décrets d'application de la loi sur les entités territoriales décentralisées. Et ajouté à cela, il y a aussi les arriérés des 2005 des agents électoraux. Et pensez-vous qu'avec tous ces préalables, ces élections auront lieu en 2009
c'est déjà une faute, à mon avis, parce que tous ces préalables, à mon avis, on ne pense pas. Vous parlez de la loi sur la décentralisation. C'est un projet, c'est une loi qui se discute, la loi est sortie, mais elle n'est pas d'application. Déjà, il y a un problème en ce qui concerne le Katanga. Alors qu'on parle de la décentralisation, il y a ici un groupe de notables qui estiment qu'ils sont carrément démembrés du Katanga du reste de la province, parce que, vous savez, il y a une plainte contre l'ONU à la Cour internationale de la justice, et que notamment estime que le Katanga devrait être réhabilité comme un État à part, et l'État qui a vécu entre 60 et 63. Voilà notre problème, donc on devrait tenir compte par rapport à ça. Si on revient à l'entité République démocratique du Congo, dans sa forme actuelle, dans sa configuration de ce jour, on se dit que par rapport à ces arriérés, les gens ne sont pas payés. Et on continue que les opérations de révision du fichier électoral ne sont même pas organisées au niveau de la province du Katanga. Ça signifie qu'on navigue sur le flou. Et la CEI, qui n'est pas capable financièrement d'organiser tout ça, et va recourir à certaines formules dilatoires pour dire écoutez, les moyens ne sont pas réunis et tout et tout. Regardez ce qui se passe à Kinshasa. C'est déjà un symbole, c'est déjà une sorte d'emblème par rapport à la suite de ces opérations.
Merci.
Je ne crois pas qu'on pourra déployer assez de gens. À Bandal, on dit qu'il y a eu 4 bureaux. Oui, ce n'est pas un problème de bureau, c'est un problème de volonté de Congolais. On peut mettre un bureau, mais si les Congolais ont la conscience qu'il faut se faire enrôler par rapport à ces élections à venir, ils diront à ce bureau et on notera un engouement.
Mais il y avait effectivement l'engouement, les gens sont allés se faire enrôler.
Oui, ça je vous le concède, mais je considère qu'il s'agissait de l'engouement après les délais régulièrement établis. C'est dans la prolongation qu'on a vu en engouement. Bon, c'est très bien. Il y a eu engouement. Est-ce qu'il y aura encore engouement partout ailleurs? Est-ce que la CEI pourra déployer autant de bureaux? Il y en a eu plusieurs parce que le moyen était mis à disposition. Les personnes étaient mises à contribution. Mais aussi, il y a eu des problèmes après, parce que vous avez évoqué justement ce cas d'avirer de 2005. Mais qu'est-ce que ça va donner pour les Katanga? Bref, pour répondre à votre question, la chance est très minime par rapport à l'organisation de ces élections. Parce que déjà, la question financière n'est pas résolue.
Merci.
De vouloir organiser les élections, mais sans avoir les financiers en plus.
Merci Jacques Caboulo. C'est avec vous que nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Certaines entreprises, tant privées que publiques, dénoncent l'existence d'un circuit parallèle au sein de la DGRAD. De son côté, la DGRAD ne reconnaît pas les accusations formulées contre elle par ces entreprises. En dépit du démenti de cette régie financière que vous allez suivre dans cette émission, des hauts responsables des sociétés d'État persistent et signent. Une véritable mafia va de la DGRAD jusqu'aux banques agréées où sont payées les différentes taxes. Paul Kaboba résume les remarques de ces entreprises.
Prenons l'exemple du secteur minier. Depuis juillet 2007, les ministres des Finances autorisent les contribuables à s'acquitter de leurs obligations en dollars américains. La DGRAD fait encore payer en francs congolais. La DGRAD s'appuie sur une note temporaire datant de 2005. Problème, en taxant en francs congolais, certaines banques appliquent un taux bien inférieur à celui qui a cours sur le marché. Personne ne sait alors où va le différentiel. Des structures d'État taxent des entreprises. Ces sociétés ont apporté des preuves de paiement alors que la DGRAD ne le reprend pas dans son rapport. D'autres sociétés ont apporté des preuves de paiement alors que ces structures d'État ne les connaissent pas. Il y a des recettes réalisées ici et là et ne sont pas reprises dans le rapport 2008. Sans doute sont-elles reprises dans un ensemble général, mais cela n'est pas clairement indiqué. Au niveau de l'obtention du passeport, la DGRAD récupère jusqu'à 3 fois 20 dollars américains sous les notes de perception. Personne ne sait s'il s'agit d'une nouvelle taxe ou pas. La DGRAD devrait rétrocéder une partie de ses recettes aux services qui les génèrent. Elle ne le fait pas depuis longtemps, d'où la grosse colère de ses chefs d'entreprise.
Réagissant à ces accusations, le coordinateur de la Direction Générale de la DGRAD explique les précautions prises pour éviter la fraude dans cette régie financière. Martin Lugendo est au micro de Thérèse Cancou.
En réaction, c'est un peu de déception, tout simplement parce que s'il était effectivement responsable d'une entreprise publique, il sait très bien quelles sont les dispositions impératives qui règlent les matières sur le règlement des dettes envers l'État. Ces règles sont tout à fait précises et elles sont tellement impératives qu'elles ne permettent pas à un agent de la DGRAD de manipuler quelque fonds que ce soit. L'agent de la DGRAD est chargé d'établir des notes de perception qu'il remet aux assujettis et les assujettis se présentent devant les banques agréées ou les institutions financières agréées. Ces institutions financières reçoivent ces fonds sur base des notes de perception. Mais un document qui est établi par un responsable de la DGRAD, un ordonnateur, qui est présenté à la banque agréé pour encaisser. Il est encaissé et la banque agréée a, dans les délais que prescrit la banque centrale, la banque agréée a l'obligation de reverser ce montant au compte du trésor.
Jean-Louis Miasukama, en suivant cet élément, on se rend compte que la DGRAD s'est payée aux sociétés minières en francs congolais en dépit de l'autorisation datant de 2007 du ministre des Finances. Comment comprendre cette attitude de la DGRAD?
Oui, mais c'est à voir pourquoi la DGRAD a intérêt à faire payer en francs congolais pendant qu'on autorise en dollars. Bon, et même encore que cette question de dollars ou francs est discutable, parce qu'à une certaine période, on avait obligé tout le monde à payer le fisc, les régies financières en francs congolais, vu la dépréciation du franc et les peu de moyens en francs qu'on trouvait pour le trésor public. Mais cela, en fait, à mon avis, tous ces problèmes demandent à ce que l'on joue carte sur table, qu'on dépièce tout, et les imprimés de valeur, et toutes les instructions soient toutes réexaminées et réinscrites en instructions, s'il faut établir des lois, etc. Parce qu'il y a aussi un fait, dans toutes ces structures, on complique tellement les choses que ni les entreprises ne se retrouvent et que ceux qui les comprennent mieux tirent les ficelles. Donc je pense que si on accuse la DGRAD, par exemple, d'une mafia, la DGRAD devrait aller vers ceux qui l'accusent, apportez-nous les preuves, on joue carte sur table, il y a certainement des responsables, si la menace est avérée, on sait où ils doivent se trouver, au trou, au douche, hein. Et si cela n'est pas vrai, bon, on éclaircit aussi les choses. Je pense que ça, pour aller vite, il faut rapidement jouer sur la transparence et qu'il y ait une traçabilité. Et puis l'autre chose aussi, l'autre chose aussi, c'est le respect des procédures, au niveau des régimes comme au niveau du trésor public. Les rétrocessions,
Une fois, il y a le ministre des Finances qui disait « Je ne veux plus que les employés des régies viennent me déranger quand nous prenons de rétrocession. » Mais en fait, qui bloque, c'est le Trésor. Et qui est à la tête du Trésor? C'est un directeur du Trésor, mais aussi le ministre des Finances. Donc, il faut un respect des procédures pour que les services qui génèrent les recettes puissent les retirer.
Oui, Jacques Taboulot, le coordonnateur de la DGRAD, pense que les dispositions relatives aux matières sur les règlements des dettes envers l'État ne permettent pas une quelconque manipulation. Et ces fausses notes des perceptions dont parlent les responsables de ces entreprises, d'où viennent-elles?
Bon, si on peut comprendre, c'est qu'il y a déjà une procédure bien établie. Vous avez la note de perception qui est émise par la DGRAD, vous avez les assujettis qui se présentent avec dans des banques agréées. Ça, c'est bien beau, mais il faut voir ce qui se passe en pratique, parce que déjà, à Lubumbashi, on note de petites vérités par rapport à tout ça, c'est que des modes de perception sont régulièrement accompagnés d'un réseau des gens qui se permettent de jouer avec. Vous avez des imprimeurs, je parle bien des réseaux, c'est-à-dire, si la note est sortie, c'est que localement, on peut déjà l'imprimer et créer des numéros. Pour autant que des sociétés se plaignent du fait que les montants payés n'ont pas été reconnus par les banques ou les sociétés minières et que la DGRAD estime qu'il n'y a pas vol, ça signifie en même temps qu'il y a danger. Il y a danger par rapport à l'organisation, il y a danger par rapport au contrôle dans cette façon d'agir par la DGRAD. Alors, je comprends, moi, que le problème ne concerne pas exclusivement la DGRAD. C'est un réseau, comme je le dis. Vous avez quelqu'un là-bas qui peut percevoir et ne pas verser l'argent. Vous avez parmi des assujettis, des complices, et vous avez dans le rang de la DGRAD des personnes qui peuvent agir ainsi. J'en veux pour preuve ce qui se passe, je l'ai dit dans mon introduction, entre la DGM et la société Tengke Fungourou Mining. Vous savez que par rapport à ça, la société Tengke Fungourou Mining avait versé ou devra verser 16 millions de dollars par rapport au séjour de certains sujets requis pour l'installation, la construction de structures de Tengke Fungourou Mining. Il y a eu certes certaines petites défaillances dans l'organisation des choses passées qui font gros des mining, ils ont reconnu qu'ils devaient payer. Mais au niveau des banques, apparemment, aucun sou n'est entré. C'est ainsi qu'il y a des gens qui sont plutôt suspendus à dès qu'ils font gros des mining pour des raisons d'enquête. Donc vous comprendrez qu'il n'y a pas seulement la DGRAD dans le circuit, il y a plein de personnes qui font ce réseau-là et qui agissent au grand mépris de la loi. La grande question pour moi, c'est comment on suit ça et c'est comment on contrôle toutes ces personnes-là.
Oui, Benoît Cambéret, comment peut-on démanteler ces réseaux? Bon, pas seulement à la DGRAD, mais aussi à la Banque Centrale et dans l'entreprise.
Mais justement, parce que le démenti du coordonnateur de la DGRAD, par exemple, ne porte que sur la procédure. Ce n'est pas à ce niveau-là que les plaintes viennent. Les plaintes viennent de l'après. C'est au niveau de la Banque Centrale, des complicités au niveau de la Banque Centrale, des complicités au niveau de la DGRAD. C'est là qu'il y a à faire et à ouvrir l'œil. Les rétrocessions. Comment expliquer que des agents de la DGI, par exemple, qui sont entrés en grève dernièrement, les agents de la DGRAD eux-mêmes, ou les agents qui doivent avoir toutes les régies financières qui doivent, à qui on doit rétrocéder de l'argent. Comment expliquer que après 3 mois, après 6 mois, cet argent n'est pas rétrocédé? C'est là qu'on doit ouvrir l'œil. Au niveau de la Banque Centrale, et au niveau, c'est pas au niveau de la procédure, c'est l'après-procédure. Quand l'argent a été versé, qu'est-ce qui est rétrocédé aux régies financières? Qu'est-ce qui est rétrocédé au ministère de l'Environnement? Qu'est-ce qui est rétrocédé aux services qui ont droit de cette rétrocession? C'est là qu'on doit regarder, ouvrir l'œil et le bon. Le niveau de la procédure, en principe, ça ne pose pas de problème.
Jean-Louis Niasse-Kama, qu'est-ce que vous proposez, en fait, pour faire dissiper cette méfiance que certaines entreprises estiment à l'endroit de la DGRAD?
Comme je dis, il faut jouer carte sur table, à tous les échelons. C'est-à-dire qu'il y a des imprimés de valeur, on les sécurise, on détermine qui doit les imprimer, quelles institutions, comme a dit notre confrère Lumbashi, il y a tout un réseau, tout ça, de gens qui s'occupent de ça, et donc, il faut que ce soit des imprimés authentiques. Au sujet des procédures, elles doivent être simples et claires, hein, et des personnes bien identifiées. Et puis, il doit y avoir une traçabilité des recettes et une transparence. C'est tout à fait normal que les régies diffusent publie leurs recettes au niveau du Trésor, au niveau des finances, mais aussi qu'on ait ces recettes au niveau du Parlement, au niveau même d'un site internet qui fait que chacun puisse aller consulter cela.
Vous pensez que c'est facile de la part de ce chef d'entreprise et déceler des faux documents?
Oui, mais généralement, dans certaines entreprises, des gros, c'est quand même des chevronnés. Il y a quand même un chef d'entreprise qui a investi, qui a des critères de performance, qui a des résultats à obtenir, se rend compte très vite de là où il perd l'argent, où il y a des fuites d'argent. Mmh. Et chaque fois, cette entreprise s'en plaindra, on vous dit de payer 100, mais officiellement, mais à preuve de payer 150, bah, écoutez, quand même, ça doit cesser.
Vous en ramènerez, qu'est-ce que vous proposez?
Ben, qu'on ouvre l'œil et le bon, et au bon endroit. C'est bien de crier tolérance zéro. Il faut aller voir là où il faut voir et pas frapper dans la périphérie et dire qu'on fait quelque chose.
Merci, c'est avec vous que nous passons à notre troisième thème de ce soir. Difficulté dans la livraison du passeport biométrique en République démocratique du Congo. Deux semaines après l'arrestation du directeur des chancelleries du ministère des Affaires étrangères et son collègue de la justice, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a annoncé la reprise de la livraison du passeport biométrique. Cependant, le porte-parole du ministre de la Justice, dans l'émission Dialogue entre Congolais de mercredi dernier, se demandait avec quel certificat de nationalité le ministère des Affaires étrangères a repris depuis samedi dernier la livraison des passeports, puisque, selon lui, il n'a plus d'imprimé de ces documents au ministère de la Justice. Par ailleurs, de plus en plus, des gens dénoncent notamment les coûts du passeport estimé au-delà des bourses de la majorité des Congolais, mais aussi les temps que prend la procédure. Écoutons ce témoignage d'un requérant de Lubumbashi au micro de Jean Gandou.
Je n'ai jamais vu nulle part ailleurs les gens pour venir chercher un passeport de 8h jusqu'à 18h. Si vraiment dans ce pays les gens travaillent, je ne peux pas m'imaginer que quelqu'un qui travaille venir attendre le passeport de 8h jusqu'à 20h et pour ne pas avoir ses passeports, ça ne se passe pas comme ça. Attendre un passeport de 8h jusqu'à 18h et pendant un mois, par exemple pour mon cas, je suis venu pour la capture. Ça fait déjà 2 semaines que je suis là. Aujourd'hui, j'ai essayé de forcer pour rentrer parce que j'en avais assez. Il existe cette histoire de VIP, je ne sais pas c'est quoi, des structures qui n'existent pas ailleurs. Il paraît que les VIP, les familles de députés, les familles de ministres, les familles des gens qui ont des moyens, qui passent, et nous autres, bon, nous ne savons pas dans quelle liste nous sommes, donc il faut attendre, et on ne sait pas. Vraiment, je demanderai aux autorités que ce n'est pas de cette façon qu'on organise, parce que ça, même les visiteurs qui passent ici, c'est tout ça étonnant.
Pour le plus à cette temps, je vous demanderai d'être bref. Jacques Aboulot, je rappelle que vous êtes directeur des informations à la radio-télévision Lubumbashi Doua, une télévision émettant depuis Lubumbashi au Katanga. Et qu'est-ce qui cacherait ce qu'on peut qualifier de cacophonie dans ces problèmes des passeports congolais?
Eh bien, pour moi, c'est l'amateurisme, pratiquement. Hein. Vous savez, toute la République a choisi, ou a plutôt été appelée à prendre son passeport à Kinshasa. Mais lorsque... pour plaire à la nation, pour décentraliser les choses, il faut ouvrir des centres, et vous avez un centre, on l'appelle bien centre expérimental, à Lubumbashi pour l'octroi des passeports. Il y a tout le monde, il y a tous les amateurs possibles, au point qu'on ne sait plus qui fait quoi. Voilà. Moi-même, peut-être avant ou après Jean Gandou, je suis passé au Parlement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de plaintes par rapport à la durée pour obtenir son passeport. Il est vrai que vous avez plein de services, vous avez notamment la DGRAD, vous avez des services d'identification, vous avez le tribunal, enfin le parquet de grande instance pour le poids du casier judiciaire, et puis la mère pour la vie. Mais après, il y a des commissionnaires qui arrivent, parce que tous ces gens qui viennent prendre le passeport, ils ne savent pas exactement à quel point se vouer. La sensibilisation sur ce point-là n'a pas été bonne. Alors des commissionnaires arrivent, messieurs, donnez-moi $500, demain vous avez le passeport. Le jour qu'il a empocher l'argent, il est parti, il laisse le requérant en rade. Et finalement, le taux officiel, le prix officiel, c'est $198.
Là, c'est à Lubumbashi.
Oui, Lubumbashi, mais partout, vous avez par exemple, il faut acheter la fiche d'identification et tout ça, le prix compris, ça fait $198. Mais vous qui avez donné $500, vous faites 2 semaines, vous n'avez pas votre passeport. Ça fait la grogne, tout simplement, parce qu'il y a l'amateurisme, on n'a pas bien formé les gens. Les gens qui ont été formés, c'est ceux qui manipulent les types de captures. Mais le reste, finalement, la population est vouée à son triste sort, au point que finalement, On ne comprend pas exactement. Bon, j'ai suivi qu'on a dit c'est le ministère de la Justice qui donne le certificat de la nationalité. Oui, mais ici à Lubumbashi, vous avez le parquet qui donne le casier judiciaire. Ça signifie que le même casier devra être transféré à Kinshasa après l'avis de l'AMR, alors seulement on peut avoir son passeport. Cela explique pourquoi les gens traînent longtemps pour avoir leur passeport. À mon avis, c'est ça l'explication.
Jean-Louis Niasse Kama, je rappelle que vous êtes chef de la section actualité au service des informations à la télévision Antenne A, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Quelle est votre réaction lorsque vous écoutez le référent qui venait de passer et il a parlé des VIP, c'est une catégorie des personnes qui obtiennent facilement les passeports et pendant que les autres catégories l'obtiennent difficilement. Comment vous réagissez à cela?
Et justement, c'est le reportage qu'il fallait faire, c'est-à-dire ce récurrent-là qui n'est pas un VIP et qui prime comme tout le monde, parce que souvent on nous appelle par les institutions, par le ministère des Affaires étrangères, tout ça, pour voir des VIP en train de prendre leur passeport. Or, et c'est pas normal, parce qu'en réalité, ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens, ils triment pour avoir leur passeport. Parce que justement, il n'y a pas cette notion de service public. On dirait que c'est une affaire de gros sous, où est-ce que chacun veut se faire son pognon au détriment de ses propres compatriotes. Donc c'est scandaleux, et je pense que le ministre est appelé à mettre de l'ordre parce que c'est scandaleux. Et il est temps que ça cesse. Et même, parce que malheureusement, il y a la vacance parlementaire, mais on pouvait interpeller le ministre parce que, non seulement, les gens qui ont leur passeport valide, on leur demande de changer de passeport pour prendre des nouveaux passeports. Or, dans d'autres pays, ce qui fait la validité de votre passeport, c'est la taxe que vous payez qui vous permet de garder le passeport pendant longtemps. Et quand vous revenez parce que ça sera plein, on vous le change tout simplement. Et là, on est en train de faire, comme pour les plaques, je m'excuse, mais ça devient, on raquette la population, on extorque la population de manière officielle.
Ça n'a que vous, hein.
Non, mais c'est sérieux, ça c'est scandaleux. On est autorité pour servir le pays, pour faire le bonheur de la population. À moins qu'on me dise que c'est le contraire. Et ça correspond à des actes concrets. Sinon, s'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale dans ce qu'on fait. Je suis désolé.
Merci, Benoît Caméré. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs. C'est un journal très récent à Kinshasa et distribué à l'est du pays, dans les pays limitrophes de la RDC. Et comment, à votre avis, peut-on simplifier la procédure d'obtention du passeport congolais?
C'est tout simple. Un passeport, c'est quoi? C'est une carte d'identité. Pourquoi on mystifie un passeport? C'est une histoire de magouille, tout simplement. Comment expliquer que le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur se battent pour une histoire de délivrer un papier d'identité? C'est tout simplement parce que derrière ça, il y a beaucoup de magouilles. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté tel directeur ou tel autre directeur. Tout le monde sait qu'avant le passeport biométrique, il y avait ce qu'on a appelé le passeport semi-biométrique. Avant ça, il y a eu une carence de passeport pendant longtemps, tout simplement pour favoriser la magouille. C'est triste à dire, mais c'est ça. Qu'on mette de l'ordre aux endroits qu'il faut, et c'est un papier que n'importe quel citoyen d'un petit pays dans n'importe quel coin de l'Afrique a sans aucun problème. C'est une carte d'identité. Certificat de nationalité par-ci, c'est tout. Quelqu'un qui a sa carte de lecteur, c'est-à-dire que c'est un Congolais, quelqu'un qui a un ancien passeport, on devrait le lui changer sans aucun problème. Mais où ça vient qu'on cherche de l'argent à gauche, on cherche de l'argent à droite? Quel est le prix officiel d'un passeport? Vous savez combien on paye aux affaires étrangères? Je connais deux cas. Un Congolais qui vit au Japon, qui travaille au Japon, qui est venu pour changer son... On lui a dit que c'est une histoire d'une semaine. Il a fait un mois à l'hôtel, alors que c'est un fonctionnaire international. Il a dit, il donne raison aux autres Congolais qui prennent d'autres nationalités, parce que pour avoir le passeport, il lui faut 2 heures. Il y a une famille qui vient du Kenya.
Vous n'allez pas inciter les Congolais à changer de nationalité?
Non, mais avec de telles tracasseries officiellement, ça veut dire quoi?
Ça va se faire sous forme de...
Oui, Jean-Louis, mais c'est comment? Oui.
En quelques... C'est une affaire d'heures, ou de peut-être 24 heures.
Deux minutes. Hein, c'est à quoi c'est... Comment voulez-vous qu'on puisse développer un pays si des simples choses comme ça, on ne sait pas les faire? Et encore, il y a encore d'autres histoires. Déjà, des diplomates nous sont encore allés, des pays étrangers. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur le passeport qui ne sont pas claires.
Ok, merci. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Jean-Claude Nsiala était à la technique, Alain Irung à la réalisation, assisté de Jean-Claude Toumba Kamanga et de Samuel Kachak devant ses micros, Guy Massé, qui vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Okapi. Thank you.
Kati, oh Kati.